Message 3, conférence à Fountain Valley, fin d'année 2023. Le grand souverain sacrificateur au milieu des chandeliers d'or, Apocalypse 1 à 3.
Père, nous te demandons ce matin de bénir tous les saints et que ton œuvre soit faite sur terre. Nous voulons nous consacrer à toi ce matin. Et que l'Esprit parle aux églises et à chacun de nous. Et nous accorde des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Accorde à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. En particulier la crainte de l'Éternel. Nous te confions ce temps, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus. J'espérerais que Mu Chang soit là à ma place. Le fardeau de Mu Chang pour ce matin, c'était le jugement de Dieu. Parce que dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse, le jugement est très sérieux. À la fin de ce monde, tu vois vraiment le jugement. Et c'est pas juste. Dans Apocalypse, déjà Pierre au chapitre 3 nous dit qu'à la fin de cet âge, tout sera brûlé. Rien ne restera. Tout sera réduit en cendres à cause du jugement. La parole nous parle de différents jugements que Dieu a déjà fait par le passé. Dans Genèse 1, déjà. Au début, Dieu a tout créé de manière magnifique. Dieu n'a pas créé un chaos. Est-ce que tu aurais créé un chaos si tu crées quelque chose chez toi? Tu le designes de manière magnifique, n'est-ce pas? Donc Dieu qui est un tel Dieu merveilleux, il a dit à Job, dans Job 38, « Où étais-tu quand j'ai établi les fondations du monde ?» Quand Dieu a établi les fondations du monde. Est-ce que tu penses que les fondations, c'est du chaos? BJ, tu es un architecte. Est-ce que si tu construis un bâtiment, tu vas commencer par créer du chaos? Non. Dieu n'a pas créé un tohu-bohu. Il n'a pas créé quelque chose de chaotique. Mais la face entière du monde était couverte d'eau et de ténèbres. Est-ce que tu crois que c'est ainsi que Dieu a créé la terre? Est-ce que c'est comme ça que tu aurais créé la terre? Informe et vide, avec les ténèbres. On n'aurait pas créé ça. Non, Dieu n'a pas fait ça. Mais, en vérité, la terre devint informe et vide. Et les ténèbres, c'est toujours négatif dans la parole, parle du jugement. Et souvenez-vous du temps de Noé, Dieu a jugé la terre au temps de Noé par l'eau. On a fait un tohu-bohu. Comme l'Europe, elle était magnifique avant les guerres mondiales. Mais après, tout était détruit. Et Ésaïe 55 dit « Dieu n'a pas créé le monde de manière chaotique. » Absolument pas. Mais pour être habité Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Car Dieu a donné le temps pré-adamique. Il l'avait confié à Lucifer pour régner sur ce temps pré-adamique. Mais il s'est élevé, il a voulu devenir comme Dieu. Et c'est terrible. Tout avait été créé de manière magnifique, comme on voit dans Ézéchiel 28, plein de sagesse, magnifique. Mais il est devenu fier. Ne deviens pas frère, fier. Si tu deviens fier, tu deviens comme Satan. Ça a été sa maladie. La maladie. La maladie, la fierté l'a perdu. Ça a été cette maladie qu'il a perdu. Il a voulu devenir comme Dieu et ça a été sa destruction. Le jugement est venu et Dieu a dû tout détruire. Dans cet ancien temps. Au début, Dieu a tout créé de manière magnifique. Et les anges se réjouissaient. Comment est-ce que les anges se seraient réjouis si Dieu avait créé un chaos? Mais là, ils se réjouissaient tous. Et parce que Dieu a d'abord créé les anges, alors Dieu a placé le plus élevé des anges sur eux. Il appelle Satan le prince de ce monde. Comment est-ce qu'il est devenu le prince de ce monde? Ah, il l'appelle celui qui règne sur ce monde et il est même devenu le prince des ténèbres. Il y a tellement d'indications dans la Bible qui nous montrent que le jugement a déjà commencé avant même. Avant même ces jours, le jugement a été terrible. Donc Dieu a créé Adam et Ève. Après, bien sûr, il a rénové la terre en 6 jours. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Après avoir créé l'homme d'une magnifique manière. Il lui a dit d'avoir la domination et de régner sur toute sa création. Est-ce que c'est pas magnifique? Tu crois que Satan est content d'entendre ça? Non, il a détruit tout ça. L'homme, Dieu a créé l'homme pour reprendre la domination. On a été créé pour régner avec le Seigneur. C'est pour ça qu'à la fin, dans Apocalypse, pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés de nos péchés? Pour faire de nous un royaume et des sacrificateurs. Pour faire de nous des rois, pour régner sur la terre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Satan? Pour le diable? Non, c'est pour ça que Jean a écrit que le monde entier gît dans le malin. Et il a dit à l'église à Pergame, tu as le trône de Satan. Tout ça, c'est des indications de ce qui s'est passé par le passé. Bien que Dieu n'ait pas écrit un chapitre ou un livre au sujet de ce qui s'est passé dans ces jours, mais il y a tant d'indications. Et c'est pourquoi il y a un conflit aujourd'hui dans le monde. Et nous sommes l'objet de ce combat. Qui gagne? Les humains. Qu'en est-il de toi? comme individu. La chair. Satan a mis sa nature de péché en nous pour ruiner l'humanité. Ce n'est pas une guerre claire et nette. Regarde dans Job. Dieu a tenu une conférence et il s'agissait d'une conférence avec les anges. Ils étaient appelés les fils de Dieu et Satan est venu. Satan est aussi venu. Dieu lui demande, d'où viens-tu? Dieu, oh, je me baladais, ci et là. Ça fait penser au lion qui se balade, cherchant qui il va dévorer. Et Dieu lui dit, Dieu lui met un défi. Elle lui a dit, ah, du moment que tu te baladais sur la terre, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Bien sûr que Satan avait remarqué Job. Il dit, mais bien sûr qu'il va être fidèle, tu lui as tout donné. Ne l'as-tu pas protégé? C'est dans Job 1. Depuis le verset 6, il a répondu, Satan a répondu à Dieu, oui, bien sûr, tu l'as béni, forcément qu'il te sert. Dieu lui a dit, ok, tu peux prendre tout ce qu'il a, sauf sa vie. Et regarde s'il se retourne contre moi. C'était un défi de la part de Dieu. Que fais-tu si Dieu te prend tout ce que tu as? Est-ce que tu blâmes Dieu? Je crois qu'il y a des chances qu'on blâme Dieu, non? Seigneur, pourquoi tu m'as infligé cela? Dieu a accepté le défi. Et Satan a pris tout ce que Job avait. Et il a provoqué beaucoup de problèmes, même physiques, à Job. Ensuite, il a même touché sa santé. Que se passe-t-il? Que t'arrive-t-il si tu es malade? Est-ce que tu vas encore louer Dieu? Non? Tu vas prier, Seigneur, guéris-moi. Et si Dieu ne te guérit pas, qu'est-ce que tu fais? Qui veut la guerre à la fin? Qui gagne la guerre à la fin? C'est Dieu, parce que Job est resté fidèle à Dieu. Il avait 4 amis. 3 vieux et 1 jeune. Ils sont venus pour le réconforter. Et lui trouver tellement de raisons pourquoi c'est arrivé ceci et cela. Et Dieu n'a pas été content avec la consolation de ses 3 amis. Ne sois pas un conseiller. Quand quelqu'un est dans le trouble, n'essaye pas de le consoler d'une telle manière. C'est pas une aide. Mais juste prie pour la personne. N'essaye pas d'être un conseiller, de donner des conseils. Est-ce que tu donnes de bons conseils? Si quelqu'un vient à toi avec des problèmes, oh attends, j'ai plein de bons conseils pour toi. Sharon, est-ce que tu as de bons conseils? Et toi, John? Au lieu de prier, on aime donner des conseils. Seigneur Jésus, Dieu s'est mis en colère avec ces trois, mais pas avec le plus jeune, car le plus jeune a été plus raisonnable que les vieux. Les trois vieux ont pensé qu'ils étaient très sages pour donner des conseils. Qu'en est-il de toi, Rebecca? Est-ce que tu aimes donner des conseils? Non. Dieu a dit qu'il allait s'occuper de ces trois-là. Je veux pas être trop dure, mais Dieu a dit qu'il s'en occuperait. Mais Job a intercédé pour eux. Est-ce que c'est pas magnifique? On peut voir que toute la bataille, l'objet de cette guerre, c'est qui te gagne? Dieu ou Satan? C'est un challenge, un défi. C'est pour ça qu'on parle d'être fidèle. Mais revenons à la question du jugement. Le premier jugement était le jugement du temps pré-adamique, du temps de Noé. Car Satan a essayé de ruiner le monde. J'aime. J'aime pas recommander le livre de. Enoch a été le grand-père de Noé. Et il a vécu du temps où les anges se sont mélangés aux hommes et ça a créé les Néphilim, les géants. Et alors là est entrée dans le monde l'impureté, un temps terrible. Dieu a dû venir et juger à nouveau le monde en ce jour. Dieu n'a pas juste laissé ça continuer comme ça. Et qu'on soit juste une famille, non. Mais parce que Noé a été fidèle aux yeux de Dieu, le monde entier était déchu en ce temps. Et Dieu a trouvé Noé et Methuselah, bien sûr, qui étaient fidèles. Il a vécu plus de 900 ans, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur cette planète. Car Dieu avait dit à Enoch que le déluge venait. C'est pour ça que Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Pour marcher avec Dieu. J'espère que ton fils va apprendre à marcher avec Dieu. Pas 300 ans, peut-être quelques années avant que le Seigneur revienne. Le jugement vient. Si j'étais Enoch, j'aurais demandé à Dieu quand est-ce qu'il vient. N'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que tu aurais demandé aussi? Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Le jour où ton fils mourra, il viendra. Et c'est exactement ce que le mot Methuselah signifie. Il savait pas quand son fils mourrait, mais il savait que le jour où Methuselah mourrait, la première goutte d'eau tomberait. Quand Noé est entré avec tous les animaux et que Dieu a fermé la porte, alors la pluie est arrivée et Methuselah est parti. On peut le savoir. J'en ai parlé il y a quelques années au sujet de Enoch dans une conférence en Asie il y a quelques années de ça. On peut compter toutes les années des différentes générations. Et ça coïncide parfaitement avec le jour où Noé est entré dans l'arche, le jour où Methuselah est mort. Il vaut mieux le savoir, le jugement est venu. Louez le Seigneur. Pierre le mentionne dans 1 Pierre 3. Et Dieu se réfère, quand il parle du jugement, il se réfère au temps de Noé. Ça veut dire qu'il y aura à nouveau un jugement. Et ce jour-là, ce jugement sera sur toute la terre. Un jugement terrible. Au jour de Noé, Dieu a promis, je ne détruirai plus l'humanité entière par l'eau. Qu'est-ce qu'il a promis ? Qu'est-ce qu'il a donné comme promesse ? Il a donné l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Maintenant, venons à Apocalypse 4, le trône du jugement. Dans le livre d'Apocalypse, on peut voir les premières visions. La première vision, c'est les chandeliers d'or avec le Fils de l'homme qui marche au milieu. Ça, c'est le premier chapitre. Et la deuxième vision, c'est le trône du jugement de Dieu. La troisième vision, à nouveau avec un jugement, c'est Apocalypse 17, le jugement de Babylone. Et la dernière vision magnifique, c'est Apocalypse 21. Le jugement de la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Et dans ces quatre visions dans Apocalypse, à chaque fois, il est mentionné que Jean était en esprit. Si tu ne me crois pas, va le voir toi-même. Chapitre 1, il dit « J'étais en esprit. » Et je me suis tournée pour voir quelle était la voix. Pas juste pour entendre, mais il voulait voir qui me parle d'une telle manière. Et il a vu le Fils de l'homme qui marchait au milieu des chandeliers d'or. Ça, c'est la vision au chapitre 1. Et ensuite, chapitre 4, de nouveau. Dieu le prend en esprit. Aux cieux. Et les cieux lui ont été ouverts, et il a vu le trône de Dieu. Allons au chapitre 4 maintenant. au fardeau de Mouchang qui était censé partager ce verset. Donc venons à Apocalypse chapitre 4. Dit « J'étais en esprit. » Verset 2. « Je fus saisi par l'esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Il vaut mieux qu'on soit en esprit. » Sois en esprit. Parce que le Seigneur l'a pris alors aux cieux et lui a montré, a ouvert la porte des cieux pour lui montrer. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'apparence, l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné. Il y avait la jaspe et la sardoine. La jaspe est rouge parce que Dieu est le Seigneur. Est celui qui nous a rachetés, il veut racheter le monde entier. Et il y avait un arc-en-ciel. Quelle est la signification de l'arc-en-ciel? C'est la promesse de Dieu de ne plus détruire à nouveau tout ce qu'il a créé. Quelle est la couleur de l'émeraude? Semblable à de l'émeraude. Regarde par la fenêtre. Quelle couleur est-ce que tu vois? Du vert. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la vie, le vert. Dieu veut préserver la vie parce que c'est la chose la plus importante sur cette planète. On ne peut pas trouver de vert sur la Lune ou Mars ou je ne sais pas laquelle encore des planètes. Le brun, le foncé, c'est sombre. Mais cette planète est remplie de vie, tellement de petites choses si vertes. C'est une planète verte. On a une planète verte. Louez le Seigneur. Et autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis. 24 est un chiffre. C'est le chiffre des anges. 12, c'est le chiffre des hommes. Mais 24, c'est pour les hommes. Il y a 12 tribus. Combien de disciples est-ce que le Seigneur a choisi? 12. Qu'en est-il de la Nouvelle Jérusalem? 12 fondements. À chaque fois, on a le chiffre 12 en ce qui concerne les hommes. C'est un chiffre complet qui se réfère au peuple de Dieu. Mais les anges, ça se réfère au chiffre 24. De quel chiffre veux-tu faire partie? J'espère 12. J'espère que tu ne rêves pas de devenir un ange. Maintenant, pour raccourcir l'histoire qui est longue. C'est important pour moi de vous le mentionner. Sous le trône, il y a une mer de verre, verset 6. Est-ce que tu peux sauter dans une mer de verre? Sarah, quand tu vas nager, est-ce que tu irais nager dans une piscine de glace? Peut-être que tu peux faire du patinage sur une mer de verre. Et si tu continues de lire, verset 15, on voit que on peut voir sous cette mer de glace, de verre, qu'il y a un feu. Donc, peut-être que cette mer de verre va devenir le lac de feu. Parce que après avoir jugé, Dieu va juger. Non, il n'aura pas besoin, Dieu, de créer un lac de feu ailleurs. Dieu va utiliser ce qui existe déjà. On peut voir que cette mer de verre sous le trône devient ce lac de feu. Qu'est-ce que Dieu attend? Vous croyez que le monde n'est pas encore prêt pour le jugement? Il y a tant de choses terribles. Et en particulier dans notre temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu nous dit. Et le globalisme, les adorateurs de Satan. Il y a des gens qui adorent Satan. Mais est-ce que tout n'est pas prêt déjà pour le jugement? Dieu n'a pas attendu pour juger Sodome et Gomorrhe. Il y a direct du feu qui est tombé du ciel en quelques minutes. Tout était carbonisé, sans avertissement. Maintenant, dans Apocalypse, qu'est-ce que Dieu attend? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas déjà jugé? Parce qu'il attend quelqu'un qui est digne de prendre ce livre avec les sept sceaux dans ses mains au sujet du jugement de Dieu. Il attend. Pas que quelqu'un, il attend que quelqu'un soit digne chapitre 5 verset 1 puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de sept sceaux et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. C'est pas juste nous ou les anges, mais c'est même parmi ceux qui sont déjà morts. C'est Dieu a cherché partout quelqu'un qui soit digne. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder, même pas digne de le regarder. Et je pleurai beaucoup. Jean, le témoin fidèle, a pleuré. Il a réalisé déjà en ce temps combien c'était déjà terrible. Ce qui a été fait déjà au temps des Romains était terrible. On peut voir que c'était déjà diabolique. Jean a beaucoup pleuré. L'un des vieilles, pas juste de pas le lire, mais de le regarder, il a pleuré beaucoup. Parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. C'est un livre de jugement. Mais l'un des vieillards me dit, c'est pas un vieillard, c'est pas un ancien de cette terre, mais c'est un ange. Un des vieillards me dit, ne pleure point, ne pleure point. Il a pas non plus dit, réjouis-toi. Dis seulement, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Qui est-ce? Toi? Ton fils Jasper? Non. Qui est-ce? Qui est le seul digne? Qui est digne? Personne. Personne n'a été trouvé digne. Un seul. Amen. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Il a vaincu Satan, ses anges, la mort. Il a tout vaincu. Il a vaincu la mort même. Amen. Il a vaincu. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards. Les quatre êtres vivants, c'est les chers humains. Voici se tenait un agneau. C'est plus le même agneau, comme dans les évangiles. C'est maintenant un lion. L'homme est devenu un lion. L'agneau est devenu un lion. Le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu connais le Seigneur seulement comme un agneau? Jean dit dans l'évangile de Jean, il dit « Regardez, voici l'agneau de Dieu. » Jean-Baptiste dit ça. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Tout dépend où on est. Tout dépend de où tu es. On doit voir les deux. On doit voir le temps dans lequel on est. Il est un agneau qui a été immolé. Mais là,
je crois que c'est vraiment ce lion.
Au milieu du trône, il y avait un agneau qui était là comme immolé. Le Seigneur a été immolé. Mais là, on voit que l'agneau doit constamment être fraîchement immolé. Pas juste un fait historique pour nous. Comme Paul le dit au Galatiens. Il rappelle aux Galates comme si Christ était crucifié devant leurs yeux. Si pour nous c'est juste un fait historique, alors ça n'aura pas d'effet sur notre vie. Mais maintenant, il a sept cornes. Est-ce que tu as déjà vu un agneau avec sept cornes? Le chiffre 7 est un bon chiffre dans le livre d'Apocalypse, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Il a sept yeux. Sept yeux. Combien d'yeux as-tu? Tu en as deux. Mais cet agneau en a sept. C'est un chiffre complet. Comme dans Genèse, il y a sept jours. Pourquoi Dieu a utilisé sept jours et pas un seul? Ou sept minutes? Il a sept yeux. Ça veut dire qu'il peut tout voir. Rien n'est caché devant ses yeux. Ce sont les sept esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. Donc peu importe ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, ne crois pas que le Seigneur ne voit pas. Les sept esprits sont les sept yeux de Dieu qui parcourent toute la terre, même jusqu'en Corée. Ne crois pas que Dieu ne voit pas ce qui se passe en Corée. toute la terre, les sept esprits, devant le trône de Dieu, et aussi les sept yeux de l'agneau. Donc on peut vraiment voir le Dieu trinitaire, il est juste un seul Dieu. Envoyé par toute la terre. Alors il prit le livre de celui qui était assis. Alors, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau. Verset 12. On peut sauter au verset 12. Non, prenons quand même versets 9 et 10. Chantez un cantique nouveau en disant. Amen. Amen. On doit connaître Christ comme celui qui juge. Souviens-toi ce que Dieu dit à son sujet dans Jean. Dieu a mis tous les jugements en lui. Ici, il dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Je suis heureux de voir tellement de tribus, de nations et de langues. Des Coréens, d'Afrique, d'Europe, quelques-uns du Vietnam, quelques-uns d'Inde, c'est magnifique. Bien sûr aussi quelques locaux, quelques-uns de Bangkok, c'est magnifique. Et il a fait quoi? Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous ou ils régneront sur la terre. Amen. Ça devrait être il. Ah, c'est mal traduit en anglais. Ils régneront avec Christ sur la terre. À la fin de ce livre, Dieu nous utilise pour retrouver son royaume. C'est pour ça que Satan a peur de nous, parce qu'il sait qu'on va lui arracher le règne sur cette terre et on le remplacera pour régner sur cette terre. Mais tout dépend si on est qualifié ou pas. Louez le Seigneur. Et ensuite, on voit depuis le chapitre 6, avec l'ouverture des premiers sceaux, on voit le jugement de la terre. Et quand le sixième sceau est ouvert, très bientôt, il va être ouvert. Allons vite fait au chapitre 6. Les sceaux 4 et 5 sont déjà ouverts. Regardons maintenant le sceau numéro 6 qui va être bientôt ouvert. Quand il l'ouvrit, donc le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Il y a de plus en plus de tremblements de terre partout sur la terre. Il y a eu un grand... Ah, il est au verset 6. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les globalistes disent que c'est à cause du changement climatique. Qui peut changer le climat si ce n'est celui qui l'a créé? Est-ce que eux peuvent l'influencer? C'est déjà un avertissement pour nous. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Qu'en est-il de ça? C'est déjà la catastrophe aujourd'hui, mais imaginez si une étoile tombe. Qu'est-ce qui se passe à Toronto si une étoile tombe dessus? Ce serait une catastrophe. Et qu'est-ce qui se passerait à Vancouver? Et qu'en est-il de Los Angeles? Qu'est-ce qui se passerait à Chicago, à New York? À Minneapolis? À Seattle? Et dans toutes ces places, sur toute la terre, des étoiles qui tombent. Tu imagines cela? Est-ce que tu aimerais voir des étoiles qui tombent? Aujourd'hui, on regarde les étoiles filantes. Ça va, c'est pas trop dangereux. Mais si une étoile tombe du ciel, ne reste pas là à regarder. Comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. C'est dur à imaginer. C'est inimaginable. Est-ce que tu peux imaginer le mouvement d'une montagne? Tu imagines les Rocky Mountains de Vancouver? Tu peux imaginer, elle se déplace. Toutes les montagnes se déplacèrent et les îles furent remuées de leur place. Imagine les îles Victoria. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Tu connais des cavernes dans lesquelles te cacher à Vancouver? Il y a des bunkers. Une caverne est bien plus solide qu'un bunker, surtout avec les choses qui se passent dans ces jours. Et là, il disait, se cachait dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Est-ce que tu crois que le Seigneur a dit cela pour t'effrayer? Non, son but n'est pas de nous juger, il nous aime. Il n'a aucun désir de nous juger, c'est pour ça qu'il veut nous prendre à lui. Mais on aime apprécier ce monde, la chair. Exactement ce que Jean dit, n'aimez point le monde. Parce que si tu le fais, tu dois réaliser que ce monde et tout ce qui est dedans seront jugés. Est-ce que tu aimes encore le monde? Es-tu sûr? L'amour de la chair? L'amour des yeux? Tout ce que tu vois? Oh, je veux ça! tu vois ceci. Amène ton fils dans un magasin de jouets. Il va dire, oh, je veux ça, et puis ceci, et puis cela. Même juste au... quand tu vas faire les courses, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui achètes tout le magasin? Et l'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie. On croit tous qu'on est magnifique, qu'on est capable, qu'on est meilleur que les autres. Même en étant assis ici, ah, je suis meilleure que Mo. Et Mo va dire, pas du tout. T'es même pas capable de prendre ma voiture. Seigneur Jésus, qu'est-ce que l'orgueil de la vie? Est-ce que je pense mieux? Si la femme dit « je suis meilleure que mon mari » et mon mari dit « non, je suis la tête de la famille. » Ça, c'est la fierté. On ne réalise pas qu'on est déchu. Le pire, c'est ça. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'est-ce qui peut être comparé à l'amour de Dieu? On aime tellement de choses. Mais est-ce que les choses peuvent être comparées?
Si ton fils préfère son jouet, sa voiture en plastique à toi, est-ce que tu seras content? Jean dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est la stratégie de Satan. Parce qu'il te prend loin de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut remplacer Dieu? S'il n'est pas à notre joie, si Satan voit qu'on veut poursuivre Dieu, il va nous donner un remplacement. Ah, tu aimes la connaissance? Oh, ok, je te donne la meilleure université. Qui est tellement corrompu aujourd'hui. Même les présidents doivent se soumettre. Ils sont grandement corrompus. Tu aimes le sport? Ah, ok, il y a toutes sortes de sports pour toi. Tu aimes nager? Ok. Il y a un immense océan pour toi pour nager. Tu aimes le foot? Tu te bats tellement pour ton équipe de foot et puis à la fin, tu rentres à la maison en pleurs parce que ton équipe n'a pas gagné. Mais si toi, tu es perdu, c'est la pire des choses. Et au jour où l'enlèvement vient, alors tu es perdu. Qu'est-ce qui peut remplacer Dieu? Tout sera jugé. Tu aimes la musique? Ok. Tu vas pouvoir avoir toutes sortes. Il y a la magnifique musique classique et puis ensuite, Alors, t'écoutes du rock, et puis t'écoutes du rock, du rock, du rock, et au final, tu roules. Ça fait un jeu de mots en anglais. Beaucoup de personnes appellent musique des choses qui ne sont finalement que du bruit, n'est-ce pas? Peut-être que tu vas me dire, oh, John, t'es trop vieux pour comprendre ces choses. Peut-être. Peut-être. Si tu remplaces Dieu avec toutes sortes de plaisirs, mais Dieu est le plaisir de notre vie, la joie de notre vie. Tu vas au cinéma, tu profites d'un film. Dès qu'il est fini, t'es là. Oh, c'était un super. Waouh, c'était un super film. Waouh, génial. Et alors? Après qu'il soit fini, qu'est-ce qui te reste? Ensuite, le soir, il te reste quoi? Mais la joie d'aimer le Seigneur demeure. Satan est très subtil pour détruire le monde entier. Regardez le judaïsme, quand le Seigneur est venu, le judaïsme avait remplacé le Dieu vivant. Même la religion peut remplacer Dieu. Dieu est un Dieu vivant. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu vas juste acheter un livre autobiographique à tes enfants et ça suffit pour qu'ils te connaissent? Il y a un frère qui s'appelle Vince. Et puis, ça finit comme convaincre. Il demande est-ce que si tu lui achètes un livre sur Vince, ça va le convaincre, ton fils, de qui tu es. Satan a voulu détruire. Il a voulu. Trahir, faire tomber. Ne crois pas qu'il n'y ait pas de jugement. Il a trompé le monde. C'est la discipline de Dieu. Il nous avertit. Il nous avertit de ce qu'il est dans l'Église. Ce qu'il n'aime pas, il déteste les Nicolaïtes, Jézabel, Balaam et toutes ces choses. On doit savoir. Et Pierre nous dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Je sais, je vous prends trop de temps, mais je vais raccourcir la deuxième réunion. Je dois justifier pour le frère que je remplace. Sinon, il va me dire, t'as pas fait de mon travail. Non, il y a un jugement. Dieu juge, mais pour nous, c'est une question. C'est pas un jugement, c'est une discipline. C'est pour ça que Dieu dit dans sa dernière épître, celui que j'aime, je le châtie. Tu disciplines pas tes enfants parce que tu es fâché et en colère, mais par amour.
C'est ce qu'il nous dit dans Hébreux 12. On a besoin du traitement de Dieu. On a tous besoin, parce qu'on n'est pas parfait aujourd'hui. Vous avez raison. Notre jugement en tant qu'enfant de Dieu dans les églises se trouve dans Apocalypse 1 à 3. La suite, c'est le jugement de la religion et du monde. Le reste d'Apocalypse, c'est la colère de Dieu. C'est le grand jour de la colère de Dieu. J'espère que la parole de Dieu va être écrite dans nos cœurs. Amen.